À Boulevard 101, c'est le retour jusqu'à 18h. Je m'appelle Audrey Pinchot. Si vous venez de vous joindre, Max Larouche, qui est là également. La circulation pas mal, Max, à cette heure-ci. Hein?
Ouais, 20 ouest par bout entre route du président Kennedy et Taniata. C'est pas facile. L'accès au pont Pierre-Laporte, particulièrement par Henri IV, direction sud. Ça commence à ralentir hauteur chemin des Quatre Bourgeois. Capitale, direction est entre le boulevard Neuvial et l'approche de Pierre-Bertrand. C'est au rouge aussi. Capitale ouest dans le coin de Laurentienne. Ralentissement également. C'est pas si pire que ça, mais on sent des points chauds de type heure de pointe.
On la rejoint dans les prochaines minutes. On n'avait pas le choix de lui parler cet après-midi. Judith Demel, qui est journaliste judiciaire au Soleil, elle a signé un texte ce matin où on parle en fait des présumés terroristes de Québec qui veulent être remis en liberté. Judith, bon après-midi.
Allô?
Est-ce que tu peux peut-être, pour replacer pour les gens, là, juste nous rappeler exactement c'est quoi ce cas-là, c'est quoi cette histoire-là?
Ce sont quatre hommes dans la vingtaine, trois dans la vingtaine, puis un de 33 ans qui ont été arrêtés au début du mois de juillet. Trois des quatre sont accusés d'avoir facilité une action terroriste sur le territoire de Québec. Puis, évidemment, sont restés détenus depuis leur arrestation. Puis là, aujourd'hui, on faisait leur enquête sur mise en liberté. Donc, c'est un juge qui doit décider si ces gars-là, ils vont être en liberté le temps qu'on tienne leur procès ou si on va les incarcérer là, jusqu'à temps qu'on traite leur dossier. Ils ont été accusés là, de terroristes, oui, mais aussi de plein d'accusations relativement à de la possession d'armes prohibées, de l'entreposage illégal et tout ça. Là.
Comment ça fonctionne hein, quand on a une enquête en remise en liberté?
Ben c'est ça, je trouve ça plate un peu parce que c'est... D'abord, on évalue la dangerosité de ces gars-là, puis on commence par étaler la preuve qu'on a contre eux. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Comment qu'on a fait pour trouver qu'ils avaient fait telle affaire? C'est quoi nos preuves? C'est quoi les techniques d'enquête? Puis tout ça, ben, c'est frappé d'une ordonnance de non-publication. Fait que je vous
offre
aujourd'hui pour vous dire que je sais tout, mais je peux rien vous dire.
C'est génial.
Dans un dossier de même, tu sais, des fois, les ordonnances de non-publication, on voit ça dans des dossiers pour protéger des victimes ou protéger des enfants. Mais là, dans un dossier comme ça, on s'entend, c'est pas pour ça.
En fait, c'est que, étant donné que c'est vraiment une enquête sur mise en liberté qui est la première étape, c'est le droit des accusés de la demander. C'est un peu parce qu'étant donné qu'on dit la preuve, mais on peut pas l'obstiner. Il n'y a pas de débat qui se passe là-dessus, donc c'est un peu injuste. Ce serait injuste comme on voit d'une part la poursuite ce qu'elle a contre ces gars-là, mais eux peuvent pas se défendre tout de suite. Donc c'est un peu une question là pour être juste envers les accusés.
C'est un cas qui attire la curiosité, veut pas. Ça se passait comment en salle? C'était-tu plein? Y avait-tu beaucoup de monde?
C'est sûr que c'est rare là, qu'on a des accusations de terrorisme à Québec et même, je vous dirais, ailleurs dans la province. Là. Donc, c'était bondé de médias d'abord, mais aussi, c'est sûr que c'est trois accusés en même temps. Donc, il y avait tous leurs proches à eux. La salle était pleine. Là. Même qu'il y avait des gens qui voulaient y assister, puis c'était plein. Donc, il fallait qu'on les renvoie en team s'ils voulaient suivre les débats. Là. Donc, il y avait beaucoup de monde. Il y avait, comme je vous dis, la preuve est présentée. Je peux pas vous dire c'était quoi, mais on a passé la journée là-dessus. Là. Donc, la poursuite avance qu'elle a sur les gars. Puis des fois, on entendait des réactions là, par rapport à ce qui était présenté, des soupirs. Les accusés, des fois, réagissaient un petit peu. Ils semblaient vouloir dire quelque chose pour juger, mais ils peuvent pas parler. Donc, c'était quand même tendu, mais somme toute, les accusés semblaient blasés, surtout, là, impassibles et un peu tannés du jargon judiciaire, là, parce que ça s'obstinait sur des fois des choses que nous-mêmes, on comprend pas trop, là, donc des technicalités. Ça a commencé à être long. Là. Vers la fin de la journée, on a pris une pause, là, puis je pense que tout le monde était content de sortir, parce que ça reste beaucoup de blabla. Là.
D'ailleurs, je dis
éventuellement, eux, et c'est ça, là, comme là, c'est la partie de parler, mais éventuellement, eux, là, bon, ils vont pouvoir se faire entendre à savoir si quelle caution on peut présenter pour qu'eux soient remis en liberté. Donc, une caution, c'est quelqu'un qui va être responsable de lui si jamais il respecte pas ses conditions de mise en liberté. Est-ce qu'on va demander un couvre-feu? Est-ce qu'on va demander un bracelet GPS? Là, c'est tout ça. Ça va être débattu plus tard.
Mais d'ailleurs, dans ce dossier-là, oui, il y a 4 gars. Il y en a 3 là, qui sont en enquête sur remise en liberté parce qu'il y en a un, Matthew Forbes, 33 ans, qui déjà été remis en liberté sous certaines conditions. C'est vraiment parce que lui, dans le fond, n'a pas l'accusation qu'on considère la plus grave qui est terrorisme?
Exact. Lui, il est accusé d'une kyrielle d'accusation là, concernant les armes à feu, des lunettes de vision laser, des chargeurs, des explosifs, mais il n'est pas accusé d'avoir facilité un acte terroriste. Puis, donc, la poursuite s'est pas opposée à sa remise en liberté, mais présentement, il est en liberté sous de sévères conditions, là. Tu peux difficilement en ajouter, là. Il y a un bracelet GPS autour du pied, il est en couvre-feu à la maison, il peut seulement sortir pour des situations très précises à quelques heures par semaine, là.
Judith, on n'a pas le choix de parler du procès des 5 joueurs d'Hockey Canada.
Oui.
Les gars qui ont été acquittés de bord en bord, c'est sorti un peu plus tôt tantôt. J'ai envie de t'entendre, en fait, sur la finalité de tout ça, peut-être, pour commencer, là.
Ben, ils ont tous été acquittés, c'est ça qu'il faut retenir. Puis je pense que c'était clair dans le jugement qu'il y allait être acquitté. La juge a commencé fort en disant très tôt dans son jugement que la victime pour elle n'était pas ni crédible ni fiable. Donc, puis nous, on travaillait au Palais de justice de Québec, mais je dois vous avouer qu'on était pas mal pluggés là, en ligne sur ce qui se passait à London, en Ontario, pour voir les développements. Là. Donc, on avait le jugement là, par petit bout, parce qu'elle a commencé à le lire vers 10h, 10h30, puis elle l'a fini là, tantôt, là, il y a quelques minutes. Donc, ça a été très long, mais on savait un peu où est-ce que ça en allait dès le début. C'est un acquittement assez fort, je te dirais, de ce que j'ai remarqué, parce que d'habitude, quand on parle surtout en contexte d'agression sexuelle, ça arrive là que les juges vont dire « Hey, on croit la plaignante, on est pas mal sûr que c'est arrivé, on croit même pas l'accusé, mais étant donné qu'il s'est pas... il n'y avait pas d'incohérence dans son témoignage, puis que il a bien répondu aux questions, ben il reste un doute raisonnable, donc on est obligé de l'acquitter. Tu sais, des fois, c'est un jugement qui est crève-cœur, parce que on dit clairement qu'on croit à la plaignante, mais que, bon, à cause du doute raisonnable, on doit acquitter. Dans ce contexte-là, c'est même pas ça. C'est d'emblée qu'on n'a pas cru la victime. Fait que ça, je pense que c'est quelque chose qui va faire beaucoup réagir, parce que c'était au centre du débat. Puis, en plus, il y avait, je sais pas combien de manifestants, là, au palais de justice de London qui étaient venus appuyer la plaignante. Donc, c'est d'emblée, là, c'était ça la réaction que moi j'ai eue.
T'as mentionné que ça a été très, très long. T'sais, ça a commencé vers 10h15 ce matin, puis on se doutait bien dès le début qu'on s'enlignait vers que les gars soient pas coupables. Et là, finalement, on a eu en effet cette confirmation-là quasiment dans les dernières minutes. Est-ce que c'est habituel que la lecture d'un jugement qui va nous rendre éventuellement au verdict soit aussi long, ou c'est que c'est tellement un gros cas qu'on ressentait vraiment le besoin du côté de la juge de bien nommer tout ce qui nous a mené à notre verdict?
En fait, ce qui est inhabituel là-dedans, c'est que c'est la couverture médiatique qui est immense sur ce dossier-là. Fait qu'on a commencé, je veux dire, elle avait même pas commencé à le dire, qu'on disait déjà que c'était le jugement. C'est que nous, les médias l'ont couvert goutte par goutte. Donc, ils ont commencé à sortir les infos au fur et à mesure. D'habitude, on attend que le jugement soit terminé pour sortir la nouvelle dans l'entièreté avec les détails. Ce cas-là est spécial parce qu'on avait hâte d'avoir la réponse. Donc, on a voulu être rapide sur la nouvelle puis donner l'information le plus possible rapidement. Mais là, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu la pause dîner, là. Ce qui, elle, arrive au dîner, on n'a pas le choix. C'est l'horaire judiciaire. Il faut que le personnel judiciaire ait du temps pour manger. Donc, elle n'avait pas terminé. Fait que ça a été encore plus long parce que là, il y a eu la pause dîner. Puis là, elle a terminé en revenant. Mais souvent, les jugements, c'est long comme ça, là. C'est pas inhabituel qu'elle prenne le temps de lire, puis elle doit le lire dans l'entièreté. Puis là, en plus, on avait plusieurs accusés. Donc, elle doit revenir sur les témoignages de tout le monde.
Judith, il y a beaucoup de gens qui nous ont posé la question par texto, parce que tu comprendrais qu'effectivement, oui, ça fait vraiment beaucoup réagir, là. Et le procès, si ça n'avait pas avorté, mettons qu'on avait gardé ça là, avec un jury, là, penses-tu que ça aurait été différent en conclusion?
Honnêtement, je sais pas, mais ce qui est sûr, par contre, c'est que si on avait eu devant jury un verdict, c'est 30 secondes, c'est coupable, non coupable, puis après, on continue d'avancer ou ben tout se termine. Avec un procès devant la juge, ben on a eu l'explication qui a duré au moins 3 heures aujourd'hui. Là. Tout est décrit, c'est justifié. Elle a analysé tout ce qui a été dit, puis on est comme un peu dans sa pensée. Là. On a réfléchi avec elle, puis elle nous explique chaque chose et chaque question de droit. Donc j'ai envie de dire, je sais pas, on aurait eu une différente conclusion. Mais c'est sûr qu'avec un procès devant jury, on n'aurait jamais eu autant d'explications puis autant de stock à analyser puis peut-être des choses qu'on comprend mieux. Là.
En rafale, penses-tu que c'est le même résultat si c'est pas des joueurs d'hockey? Je sais que c'est des commentaires qui reviennent.
Ah, ben, ce que j'ai envie de dire là-dessus, tu sais, je peux pas me prononcer là-dessus, mais ce que j'ai envie de dire, c'est que, tu sais, là, on a vu que ça a fait beaucoup jaser. Justement, il y avait les manifs autour de ça. Tout le monde attendait la nouvelle. Tu sais, une juge, quand ça traite ça, puis ça revient souvent, elle doit faire fi de tout ça. Elle doit faire fi du bruit extérieur. Elle doit faire fi du tribunal populaire, de ce qui est écrit dans les médias. Puis elle doit même faire fi de la carrière de ces gars-là, puis de ce qu'ils font dans la vie. Elle doit traiter et juger sur une situation précise qui est arrivée. Oui, dans un contexte là où il y avait justement une culture toxique d'hockey, là, c'est sûr que ça a été adressé, mais tout ça est secondaire. Donc, est-ce que ça aurait été différent? Je sais pas, mais pour elle, si elle doit juger sans penser à ça. Et si elle s'y fie, que ce soit des joueurs d'hockey, justement, ben elle pourrait justement se faire rattraper en appel pour dire qu'elle s'est pas concentrée sur l'infraction en tant que telle. Est-ce que ça aurait été différent? Je sais pas, mais ça aurait pas mal fait moins de bruit, ça, c'est sûr.
Je t'ai lu un texto qui est entré, Judith, je te laisse réagir. Alexandre nous dit, s'ils étaient vraiment non coupables, ils poursuivraient pour diffamation.
Ben ils peuvent le faire. Ils le feront. Si c'est la direction qu'ils veulent prendre avec leur avocat, c'est sûr qu'ils peuvent le faire.
Puis de l'autre côté, penses-tu que ça pourrait aller en appel du côté de la plaignante? Je me dis, elle s'est tellement faite ramasser par la juge que je vois difficilement comment on pourrait dire qu'on a une chance en appel, mais elle a le droit de le faire. Penses-tu qu'elle va le faire?
C'est une très bonne question. Ils ont 30 jours pour faire leur demande d'appel. Puis il faut qu'il y ait des motifs de droit, tu sais, tu dis qu'elle a ramassé la plaignante dans son jugement, faut que ce soit plus clair que ça la raison. Fait que si la poursuite considère que la juge a mal analysé certains points, puis a pas utilisé les bons mots, puis a discarté la victime trop rapidement, ben là peut-être oui, il va avoir des motifs d'appel. Qui mérite d'être entendu.
Judith, je ne sais pas si tu auras réponse à ça. Là, c'est un peu plus précis comme question, mais il y a un texto qui est entré qui dit « Les gens voulaient tellement que les 5 jeunes soient coupables. Est-ce qu'elle va redonner l'argent à la Ligue, étant donné qu'ils ne le sont pas? » Sais-tu comment ça marche dans ce temps-là?
Et que non. Je pense que, en plus, ça, c'était...
Pas mal sûr que non.
C'était exceptionnel là, comme façon de faire. Et j'ai envie de dire que non, mais écoute, ça, je ne pourrais me prononcer là-dessus.
Judith Demeul, tu es journaliste judiciaire pour Le Soleil, tu couvres tout ce qui se passe à Québec. On va certainement se rejaser dans les prochains jours pour faire suite au dossier qui se passe directement ici. Merci d'avoir pris 2 minutes. Je sais que ta journée est assez intense aujourd'hui.
Mais ça m'a fait plaisir.
Bye.
Merci, Judith.
Bye.
À part, Max, tout ce qui est Hockey Canada, on a fait le tour, on a jasé en masse. Là. Y a-t-il des nouvelles autres que ça qui retiennent l'attention? Je sais que c'est un peu une éclipse médiatique, mais il se passe autre chose dans le monde. Là.
Vraiment, notamment du côté des États-Unis. Puis ça vient comme, je dirais, compléter l'éclipse qui prend toute la place. Y a Hockey Canada et y a la légende de la lutte Hulk Hogan, qui est décédé ce matin. TMZ qui raconte que les paramédics ont été appelés à sa résidence en Floride pour un arrêt cardiaque. Des rumeurs qui ont circulé dans les derniers mois à l'effet que Hogan était dans le coma après des opérations. Ça avait été démenti, tout ça, par sa femme. Le décès qui est maintenant confirmé, donc, à l'âge de 71 ans. À part ça, tu sais, on avait parlé plus tôt cette semaine de Martin Charest qui allait être accusé pour le meurtre au premier degré de Robert Picton, le tueur en série, le survenu du côté de Yonah à la prison de Port-Cartier. On en parlait plus tôt cette semaine, mais c'est aujourd'hui qu'officiellement l'accusation a été déposée. Retour en cours prévu pour le 2 septembre. Il y a la SOPFEU aussi qui retient l'attention un peu dans l'actualité parce qu'on se dirige vers un record de pompiers déployés dans d'autres provinces. C'est Radio-Canada qui nous en parle, qui nous mentionne que c'est tellement tranquille au Québec en termes de feux de forêt que on peut se permettre de venir prêter main forte. Tu sais, juste ce matin, il y a 60 pompiers qui sont partis de Québec vers la Saskatchewan, 40 vers le Manitoba. Présentement, il y a près de 400 pompiers du Québec qui sont allés aider dans d'autres provinces depuis le début de l'été. Le record de 454 pompiers envoyés, ça a été établi en 2021. Fait qu'on se dirige vers le battre. Ici, en date d'hier, 149 feux étaient actifs dans la province, alors que d'habitude, là, toujours selon les chiffres rapportés par Radcan, on est à 352. Et vous mentionnez que c'est le 15 août prochain que sera lancée officiellement la course au co-porte-parole de Québec solidaire. Ce mot toujours aussi facile à dire. Elle se déroulera jusqu'au 8 novembre. C'est là qu'on saura qui remplacera Gabriel Nadeau-Dubois.
Il y a des problèmes dans la circulation rapidement. La capitale, direction est entre Henri IV et Laurentienne. Assez difficile de circuler en ce moment. Direction ouest, ça se passe surtout, je vous dirais, là, entre Bourg-Royal et Laurentienne. Des problèmes d'ailleurs. Laurentienne, direction sud, dans la bretelle pour aller chercher capitale ouest, très au ralenti. Si vous êtes sur Henri IV sud, à partir là, de chemin Sainte-Foy, ralentissement à prévoir jusqu'à l'entrée des ponts. 20 ouest, un peu avant... En fait, je vais vous dire un peu après, plutôt, Monseigneur Bourget, ça commence à ralentir, jusqu'à environ Taniata. Il y a quoi que ce soit d'autre. Vous vous gênez pas, 88-971-1021. On retourne la pause. On a de la belle visite en studio. Denis Gravel qui s'installe. Vous allez voir qu'on a du stock à jaser en petit pépire.
Le retour de